épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 12. Voilà ce que nous lisons. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Voilà, dans ce passage, l'apôtre Paul nous parle de la bienheureuse espérance qui est celle des chrétiens, particulièrement lorsqu'ils ont à traverser des moments de difficulté, des moments d'épreuve. Il explique aux Romains que dans ces moments, bien, nous avons en la personne bénie de l'Esprit de Dieu qui demeure avec nous, qui demeure en nous, bien quelqu'un qui nous assiste, quelqu'un qui nous fortifie. Et il parle aussi de l'assurance, du témoignage intérieur que le Saint-Esprit apporte dans le cœur de tout chrétien, ceux qui ont à cœur de marcher selon, n'est-ce pas, sa pensée, la pensée de l'Esprit, selon ce que l'Esprit nous révèle dans les Écritures. C'est, vous voyez, ce témoignage intérieur que Dieu est devenu notre Père céleste. L'Esprit rend témoignage avec notre esprit ou à notre esprit, bien que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà, nous pourrions parler ce matin, quelques instants, de ce fait, de l'assurance du salut. L'assurance du salut que le chrétien est appelé à posséder. Ça, cette assurance, elle revêt une importance particulière parce que c'est une force pour notre vie chrétienne, c'est un moteur dans les actions, le service que nous pouvons rendre à Dieu par sa grâce. Puis on pourrait dire que c'est un sujet d'une importance particulière parce que la Bible, à plusieurs reprises, insiste sur ce point. Peut-être aussi parce que lorsque nous mentionnons cette assurance du salut, il n'est pas rare que nos amis, des connaissances, réagissent. Vous voyez, même des gens religieux parfois sont choqués, étonnés de nous entendre mentionner cette assurance du salut. Et bien, c'est important que nous puissions être au clair sur ce que l'Écriture enseigne sur ce sujet. Alors, dans un premier temps, la question importante, c'est quelles sont les bases de l'assurance de notre salut? Quel est le fondement de l'assurance qu'un chrétien est appelé à posséder par rapport à son salut? On peut dire qu'il y en a plusieurs, mais la plus importante de toutes, c'est le témoignage de l'Écriture. Le témoignage de l'Écriture. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et nous la recevons comme telle. C'est elle qui constitue le fondement de notre foi. Et c'est elle qui rend témoignage au fait que ceux et celles qui se confient personnellement, qui placent leur espérance dans le Christ, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, après s'être repentis, détournés de leurs péchés, de leurs manquements, du mal qu'ils ont pu commettre de toutes sortes de manières, voyez, ils s'en repentent et ils comprennent, voyez, c'est ce que l'Écriture nous enseigne, que Christ est mort pour nos péchés, bien ceux qui font cette démarche, sincèrement, du fond du cœur, reçoivent le pardon de leurs péchés et le salut. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui en rendent témoignage. Par exemple, le Seigneur lui-même, ce que nous rapporte l'Évangile de Jean, nous dit « Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Les apôtres encore nous enseignent qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que c'est lui, n'est-ce pas, que nous attendons des cieux, il nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est le témoignage qui est rendu à Christ et à son œuvre. Le témoignage de la Bible relatif à cette assurance du salut, surtout met en avant la personne bénie de Jésus-Christ et l'œuvre parfaite et accomplie qu'il est venu pour effectuer. Ainsi, il est écrit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit dans son nom reçoit par lui le pardon de ses péchés. Et le pardon des péchés, eh bien, c'est la porte ouverte sur le salut. C'est l'essence du salut. Il n'y a plus de condamnation. Nos péchés ne nous voilent plus la face de Dieu, mais ils sont lavés, effacés par le sang précieux de Christ. Et voilà, en recevant, n'est-ce pas, par la foi, le bénéfice de cette œuvre bénie, bien nous recevons le salut. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le Seigneur déclare encore, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, c'est un salut glorieux qui est reçu dès à présent par le chrétien qui, de manière personnelle, nous le disons, place sa foi dans le Seigneur, et c'est un salut éternel. Je le ressusciterai au dernier jour. Puis encore, on pourrait multiplier les textes, mais simplement quelques-uns. Le Seigneur, quand il se révèle comme le bon berger, va dire « Je donne la vie éternelle à mes brebis et personne ne les ravira de ma main. » C'est par son œuvre, c'est par sa mort, c'est par son sang versé que le Seigneur nous ouvre ainsi le ciel et nous réconcilie avec le Père, telle sorte que nous avons cette promesse par l'Écriture que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est aussi la résurrection de Jésus-Christ qui constitue le gage sûr, bien que celui qui meurt dans le Seigneur sera pour toujours avec lui. Voilà. Puis on pourrait encore citer la fidélité de Dieu à laquelle l'Écriture rend témoignage, le fait que ses promesses s'accomplissent toujours, que jamais, jamais Dieu ne faillit à la parole qu'il donne. Ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que l'assurance que nous avons auprès de Dieu, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Voilà, elle est sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà de ce que nous ne pouvons pas voir, jusque dans le lieu très saint, le lieu même de la présence de Dieu. Et, vous voyez, elle est sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Donc, le témoignage de l'Écriture, c'est le fondement le plus important du salut, de notre salut. Et c'est bon, vous voyez, de recevoir le témoignage de Dieu comme vrai, parce qu'il est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est sur lui que nous fondons notre foi. L'Écriture est le sûr et seul fondement, voyez, de la foi que nous plaçons pour être sauvés dans le Seigneur. Alors, le témoignage des Écritures, puis il y a aussi l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Voilà, ça aussi, c'est une composante de l'assurance du salut. Un chrétien qui a reçu le témoignage de l'Écriture, qui a reçu le Christ, bien, c'est Paul qui l'écrit, là, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Il a aussi cette assurance du salut par l'œuvre et par l'action du Saint-Esprit en lui. Voilà. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus ses enfants. Autrefois, ce n'était pas le cas. Nous pouvions avoir même une religion, une croyance, mais ça n'avait rien de commun. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est produit par la foi dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous, et là, il parle à notre conscience, il atteste les choses. Il y a dans le cœur du chrétien, voyez, non seulement la foi dans l'Écriture, mais il y a cette action de l'Esprit, voyez, qui entretient la foi. Il y a ce témoignage intérieur que ce que la Bible enseigne, c'est vrai. Que la réalité, la vérité qu'elle nous révèle, elle est vivante. Il y a ce témoignage que, bien, il y a un désir qui a été créé en lui, en nous, de faire ce qui est agréable à Dieu. Et tout ça, vous voyez, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il atteste à notre cœur que nous sommes devenus ses enfants. On pourrait lire dans la première épître de Jean, un texte qui complète, qui éclaire cette réalité. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24. il est écrit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Vous voyez, ça c'est un fait, l'Esprit demeure dans le cœur du chrétien et il accomplit une œuvre, il atteste, il rend témoignage au fait que oui, nous avons connu Dieu. Alors ce n'est pas du tout du mysticisme, ça n'a rien à voir, vous voyez, avec l'enseignement de certains groupes, certaines sectes qui recommandent à leurs adeptes de chercher des expériences, surtout souvent dans le domaine des sens d'ailleurs. Non, c'est une attestation intérieure, c'est l'œuvre de l'Esprit qui demeure, ça se fait parfois calmement, vous voyez, mais c'est une assurance ferme, morale, spirituelle. Lisons encore dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er et le verset 21. Où Paul écrit ceci, « Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Voilà. Ailleurs, Paul parlera du Saint-Esprit comme du gage de notre héritage. C'est un petit peu la même pensée. Vous voyez, les gages, c'est ce que vous donnez à l'avance quand vous vous êtes engagé à donner la totalité d'une somme à quelqu'un. Vous lui donnez un gage du fait que vous lui payerez la totalité, les arts, c'est la même chose. Hein, vous achetez quelque chose à l'épicerie et vous n'avez pas de quoi payer toute la somme. Mais vous commandez, n'est-ce pas, cette chose et vous allez vous acquitter d'arts. C'est le témoignage, c'est la preuve que vous payerez la totalité. Bien, le Saint-Esprit, lorsqu'il demeure en nous et qu'il accomplit cette œuvre, ce sont des arts que Dieu nous donne de notre héritage éternel. C'est bon ça, quand le Saint-Esprit nous donne un avant-goût des arts du ciel. Vous êtes arrivé? Ça peut arriver, c'est souvent dans des moments difficiles, parce que le Seigneur nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin. On y reviendra, c'est souvent aussi pendant les premiers mois, les premières années de la conversion. On a besoin d'être épaulé particulièrement, guidé dans des premiers pas, parfois chancelants. Et d'un seul coup là, hein, dans une réunion par exemple, ou bien chez soi, d'un seul coup, on sent cette présence bienfaisante de l'Esprit qui rend témoignage que oui, Dieu est notre Père Céleste, que le ciel est ouvert par le sang précieux de Jésus. Je me souviens du témoignage de cet ami chrétien, nous étions tous deux jeunes convertis, et puis à la sortie d'une réunion, là je le vois, il sautait de joie, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais c'est formidable! Je suis sauvé. Un coup de joie. Vous voyez, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce témoignage intérieur. Et puis, troisième fondement, qui c'est pas du tout contradictoire, vous voyez, c'est un ensemble de choses. Il y a aussi notre vie en tant que chrétien qui contribue à maintenir cette assurance. Vous voyez, le fondement des fondements, c'est le témoignage de l'Écriture. C'est l'œuvre de Christ à laquelle l'Écriture rend témoignage. Ce sont les paroles de Christ, de ses apôtres, qui sont consignées dans la Bible, paroles inspirées de Dieu. Il y a aussi le témoignage du Saint-Esprit, vous voyez, qui appuie, qui atteste la véracité de ces choses. Et puis, même si nous ne devons pas chercher l'assurance du salut en nous-mêmes, attention, hein, c'est l'œuvre de Christ le fondement. Ben, c'est vrai aussi que notre vie en tant que chrétien contribue à maintenir cette assurance parce que c'est une assurance morale. Ce texte, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, certains interprètes, certains érudits montrent qu'on peut aussi le traduire. Le Saint-Esprit rend témoignage avec notre esprit. C'est-à-dire qu'il y a ce témoignage rendu par l'Esprit sur la base du fondement, dans la foi que nous apportons, dans la personne bénie du Seigneur et son œuvre. Et puis ça va de pair, voyez, avec l'état de notre esprit et de notre vie. Tenez, lisez un texte avec moi, si vous voulez, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3 et au verset 12. premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 12. Alors, il est question ici des diacres, mais d'une certaine manière, on peut s'appliquer aussi ce qui est écrit. Il est écrit, les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, il n'est pas du tout question ici d'une valeur méritoire quelconque de nos œuvres. Que ce soit le premier jour comme le dernier, nos œuvres, que ce soit nos œuvres accomplies lorsque nous étions dans l'ignorance de Dieu, ou que ce soit nos œuvres en tant que chrétiens, elles n'ont aucune valeur pour nous sauver, aucune valeur méritoire. Rien que nous puissions faire valoir, que nous devions faire valoir en disant « Maintenant je suis un bon chrétien, je suis converti depuis 20 ans, et parce que je suis un bon chrétien, parce que je suis fidèle dans ma vie d'église, parce que je suis fidèle dans mon offrande, eh bien Dieu me doit quelque chose. » Absolument pas. Absolument pas. Vous voyez, tout ça, ce sont de bonnes œuvres. Bien sûr, il faut s'appliquer à les pratiquer. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est quelque chose dans quoi Dieu nous donne de pouvoir marcher. C'est ce vers quoi la grâce de Dieu nous pousse, nous rend capables d'accomplir. Mais ça n'a aucune valeur méritoire. Vous voyez, en revanche, ce que le texte enseigne ici, c'est que lorsque nous nous acquittons avec sa grâce, fidèlement, de ce que Dieu nous montre, lorsque nous maintenons avec sa force et sa bonté sur le chemin qu'il a tracé pour nous, ça nous donne de l'assurance. Ça contribue, vous voyez, à entretenir cette assurance. Notre cœur dit oui, par la grâce de Dieu, c'est vrai, j'ai été capable, je sens. Et que je, malgré mes imperfections, je suis capable de marcher sur ce chemin et ça me conforte. Regardez encore dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 18. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 18. Où il est écrit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Vous voyez, par la grâce de Dieu, le fait de pratiquer ce qui lui est agréable, parfois au prix de renoncement, parfois au prix de lutte. Oui, on sent bien encore qu'en nous, il y a ce principe qui lutte, vous voyez, contre la volonté de Dieu. Et parfois, comme Job, on est amené à dire, j'ai fait plier ma volonté, parole de ta bouche. Voilà, parfois c'est douloureux, c'est parfois une souffrance, mais ça nous maintient, ça, dans l'assurance. Ça rassure notre cœur. C'est aussi la grâce de Dieu. Puis enfin, pourrais ajouter, oui, le fait d'être sensible à la conviction de l'Esprit de Dieu quand il dévoile en nous quelque imperfection, quelque faute, quelque manquement, quelque péché. Vous voyez, au travail, par exemple, ça nous arrive. Voilà, on se dit, ah, je me suis laissé entraîner là dans cette conversation. J'ai médit de quelqu'un, ça, c'est terrible. Voilà, je suis chrétien, mais pourtant je me suis laissé entraîner. Là, c'est une médisance qui est sortie de ma bouche, ou encore une demi-vérité, un mensonge tout entier en réalité. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça nous arrive? Mais il faut le reconnaître, il faut laisser. Vous voyez, l'œuvre de notre conscience, une grâce quand le Saint-Esprit y agit, et il faut confesser ce péché à Dieu. Il ne faut pas, n'est-ce pas, le minimiser. Il faut le reconnaître et il faut se confier dans sa grâce. Il est écrit que quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, bien le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est bon. Vous voyez, quant au bénéfice de la grâce de Dieu, on reconnaît, hein, quand ça nous arrive, il faut s'en humilier. Mais c'est aussi l'occasion de recevoir la force d'être vigilant pour ne plus, vous voyez, dans des circonstances similaires, être entraîné dans le même penchant. Se tenir en garde. Le psalmiste disait, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Et bien, on a tous nos points faibles. Je suis tenu en garde contre mon iniquité. Et ça contribue, ça, à nous maintenir, non pas dans la culpabilité, non pas nous faire marcher la tête basse, mais à nous entretenir dans cette assurance. Christ m'a sauvé. Je ne marche plus comme autrefois. C'est pourquoi Paul dira, voyez, dépouillez-vous, faites mourir. Voyez les œuvres de la chair, des choses qui peuvent encore là passer dans le cœur, hein, la médisance, la méchanceté, la cupidité, etc. Dépouillez-vous, faites mourir, et revêtez-vous, voyez, de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. Béni soit Dieu pour cette vie. C'est la vivre, c'est nous maintenir dans l'assurance du salut. D'ailleurs, dans ce texte que nous avons lu, là, dans l'Épître aux Romains, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Paul parle du Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Mais juste avant, bien, il vient de dire, voyez, ceux qui marchent selon la chair, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir ces choses, eh bien, vous vivrez. Et là, bien, vous connaîtrez ce témoignage de l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Un chrétien a-t-il toujours la même assurance du salut? Ah, il y a des moments où cette assurance peut se manifester de manière particulière, nous l'avons dit, au moment de la conversion, par exemple. C'est fréquent, ça, que de manière toute particulière, nous connaissions une assurance glorieuse. Certains parleront d'un poids physique, hein, qu'ils ont senti être enlevé de leurs épaules, j'ai souvent entendu ça. D'autres vous diront, j'ai vu le ciel ouvert. Il ne s'agit pas nécessairement d'une vision perceptible avec les yeux de la chair. Non, mais cette conviction intérieure, voyez, qui nous marque à vie. Pour d'autres, ça peut être plus progressif, voyez, car Dieu ne se stéréotype pas. Nous avons chacun notre parcours, notre expérience. Mais c'est fréquent que, lors de la conversion, dans les mois qui suivent, cette assurance nous soit donnée de manière toute spéciale, toute particulière, qu'il y ait des moments, nous l'avons dit, qui nous marquent à vie. Mais il peut y avoir d'autres cas, voyez, où un chrétien peut perdre cette assurance. Par exemple, quand un chrétien tombe dans le péché. Le roi David, c'était un péché particulièrement grave, dans lequel il était tombé, puisqu'il avait commis adultère avec Bathsheba, puis refusant de s'en humilier, il avait également consommé ce péché par le meurtre d'Uriah. Et il dira dans ce psaume 51, où il exprime son repentir, « Rends-moi la joie de ton salut ». Donc il avait perdu cette assurance, il avait perdu cette joie. Et c'est vrai que le péché, quand il est pratiqué, quand il est consommé, il amène à la perte de la joie et de l'assurance du salut. Quel est le remède? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la retrouver? Il faut se repentir. Il faut se repentir sincèrement, s'humilier profondément devant Dieu. Il faut confesser sa faute et la délaisser. Vous voyez, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Vous voyez, il restera là dans son marasme, dans son malheur, privé d'assurance. Mais, voyez, celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. Il faut se confier dans la grâce de Dieu. Si quelqu'un ce matin, voyez, était dans ce cas, était tombé dans le péché, il faut retourner à Dieu. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Là, se détourne-t-on sans revenir? Il faut le faire. Non seulement une possibilité, c'est un devoir. Quand il y a un deuxième cas où un chrétien peut perdre l'assurance du salut, quand un chrétien se soumet à l'influence de fausses doctrines, et souvent, ça, quand un enseignement faux est reçu par un chrétien, toutes sortes d'enseignements faux, ça peut provoquer jusqu'à la perte de l'assurance du salut. Je pense à une chrétienne dont on m'a rapporté l'expérience, qui était active dans l'église où elle se trouvait, est une chrétienne zélée, pleine de joie, pleine de force. Et puis, un jour, voilà, le verdict médical est tombé, on a diagnostiqué chez cette chrétienne un cancer. Et bien sûr, ça a été un choc, et cette chrétienne, sans doute, a été à l'imposition des mains, en tout cas, a prié, a demandé au Seigneur sa guérison, et pour une raison qu'on n'explique pas toujours, la guérison n'a pas eu lieu. Et les mois passant, bien dans le cœur de cette chrétienne, s'est formé, voyez, ce doute. Elle a perdu son assurance. Parce qu'elle pensait, était convaincue, que tout chrétien devait toujours être en bonne santé. Et devait toujours être guéri. Et que si ce n'était pas le cas, c'était qu'il manquait de foi ou que Dieu le désapprouvait. Et ça, vous voyez, c'est une fausse doctrine. Alors, bien sûr, il faut garder, lutter pour conserver la foi, pour que Dieu nous la renouvelle, nous l'augmente, bien sûr. Croyons que Dieu guérit. Croyons que la parole du Seigneur est encore confirmée aujourd'hui par des guérisons. Croyons que le Seigneur peut guérir lorsque l'Évangile est annoncé, non seulement les perdus pour confirmer l'Évangile, mais encore ses enfants bien-aimés. C'est vrai aussi que nous voyons dans l'Écriture, pour des raisons qui nous échappent, le cas de certains chrétiens, certains hommes de Dieu authentiques qui ont été malades, et que Dieu n'a pas guéri, ou qu'il n'a pas guéri quand on aurait pu s'y attendre. Paul lui-même avait une infirmité, dont il ne dévoile pas la nature exacte. Trophime a été laissé malade à un moment donné, à Milet. Épaphrodite a été malade, près de la mort. Bon, c'est vrai, Dieu a eu pitié de lui, hein, il l'a relevé pour que l'apôtre Paul n'ait pas tristesse sur tristesse. Pour revenir à notre chrétienne, vous voyez, sous l'effet de ce faux enseignement, elle avait dû lire ça dans des bouquins, je ne sais pas si à l'époque c'était Internet, mais... elle était troublée. Qu'est-ce qu'il en a sorti? C'est l'Écriture. Béni soit Dieu pour l'Écriture. Elle nous soutient toujours. Elle est capable de nous parler. Parfois, elle est capable, n'est-ce pas, de nous enseigner jour après jour. Mais parfois, l'Écriture nous parle dans un besoin particulier de notre âme. Et cette sœur, voyez, dans sa misère, dans sa chambre de malade, voilà qu'elle lit l'histoire d'Élisée. Et elle lit ce passage où il nous est dit « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut ». Alors elle a lu, et ça a fait tilt. Elle s'est dit, mais ça veut donc dire que cet homme de Dieu, qui était un prophète éminent, employé de Dieu pour faire tant de bien à Israël, bien il est mort de maladie, et ce n'était pas le signe que Dieu le désapprouvait. Ce verset a été pour elle une parole de Dieu. Elle a recouvré son assurance. Dieu n'a pas permis qu'elle soit guérie, mais elle est partie dans la paix. Voilà les fausses doctrines. Demeurons fondées, frères et sœurs, sur le lait spirituel et pur, la saine doctrine telle qu'elle a été enseignée. Nous en trouverons bien. Ce sera la force de notre âme et notre assurance. J'ai noté rapidement quand le chrétien s'examine lui-même, c'est pas interdit, parfois même c'est nécessaire. Examinez-vous vous-même, dira Paul aux Corinthiens, pour savoir si vous êtes dans la foi. Voilà. Quand nous nous examinons nous-mêmes, voilà, parfois c'est. Il y a certaines remises en question qui peuvent avoir lieu. Alors, il ne faut pas, n'est-ce pas, que l'examen de nous-mêmes, si nous avons connu Christ, nous amène à nous départir de notre assurance. Non, non. Mais c'est bon de s'examiner. Voilà, Paul dira, il parle de lui-même, qu'il tient durement son corps, il le traite durement, il le tient assujetti. Et il dit de peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Ça ne veut pas dire que Paul avait perdu l'assurance de son salut. Et ça veut dire que, voyez, il y avait ce saint tremblement qui demeurait dans lui et dans la manière dont il se comportait au quotidien, il avait conscience, voyez, de l'importance du salut. C'est quelque chose de précieux. Il faut demeurer fermement attaché à ces choses que nous avons entendues de peur, c'est écrit, que nous ne soyons emportés loin d'elles. Il y a tellement, tellement de forces, tellement d'éléments qui concourent, si c'était possible, si le diable le pouvait, à nous détacher de ce que nous avons reçu, nous détacher de Christ, demeurons fermement attachés à lui. Vous voyez, comptez sur sa grâce, mais vous voyez, il y a à la fois dans le cœur du chrétien une sainte assurance, une grande assurance qui repose sur Dieu, sur son œuvre accomplie et sur son œuvre présente pour nous garder, car il est souverain. Et le Seigneur nous tient dans sa main aujourd'hui encore. Il est mort, bien plus, il est ressuscité, il intercède pour nous. Mais il y a aussi ce saint tremblement. Seigneur, garde-moi, j'ai besoin de veiller pour ne pas me dessécher, ne pas me laisser pernicieusement traîner loin des choses. Et puis, enfin, on va terminer par là, quand le chrétien est confronté à la mort, ah oui, nous avons reçu cette assurance, et il y a tous ces versets que nous citions qui nous affirment, n'est-ce pas, que l'espérance que Dieu nous donne pénètre au-delà du voile. Mais, rien, même en tant que chrétien affirmé comme ça, je n'ai pas peur de la mort, ce n'est pas si facile. L'Écriture nous révèle la mort comme la reine des épouvantements. David, cet homme de Dieu remarquable, disait les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, les terreurs de la mort m'avaient environné. La mort, dans le Nouveau Testament encore, nous est présentée comme le dernier ennemi qui sera détruit. Et c'est vrai que même d'authentiques croyants, à la pensée de la mort, à l'approche de la mort, ont parfois été saisis d'une crainte. Et même dans ces moments-là, croyons que Dieu est fidèle, qu'il nous soutiendra. C'est David qui lui aussi écrivait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et même dans ces moments, Dieu est capable de soutenir les siens. Il y a des témoignages, non seulement de chrétiens qui partent dans la paix, mais même parfois, voyez, Dieu fait en sorte que ceux-là même qui les accompagnent dans leurs derniers moments soient arrosés de ses bienfaits aussi. C'est l'évangéliste Moody qui, après avoir abondamment servi Dieu, s'est retrouvé malade et il a fini par comprendre que cette maladie serait la dernière, qu'il se trouvait là dans son lit de mort. Et c'est lui-même qui rapporte qu'il y avait dans son cœur une appréhension, une crainte. Et au moment où il est parti, ce sont ceux qui l'entouraient, qui ont rapporté ces choses. Vous voyez, il s'est écrié, c'est ça la mort, mais c'est glorieux. Au moment où il est parti, tous ceux qui étaient avec lui ont non seulement été consolés, mais ont éprouvé eux aussi cette grande paix, cette paix surnaturelle. La Bible parle de la paix de Christ qui surpasse toute intelligence et qui peut garder nos cœurs et nos pensées. On pourrait aussi parler de témoignage de ce réformateur anglais qui, dans le donjon où il était enfermé, savait qu'il allait être mis à mort. Et pendant plusieurs semaines, il y a eu une lutte intérieure dans ses lettres. Vous voyez, il rendait témoignage à ce combat, cet homme qui avait prêché l'Évangile, qui avait tenu par vents et marées, voilà, devant la mort, était saisi de crainte. Mais alors qu'on l'a conduit vers le bûcher, bien tous ceux qui l'ont vu ont rendu témoignage à cette paix dont il ne s'est pas départi. Il est sur les flammes même du bûcher, il est parti dans une paix parfaite. Alors, voilà, ça nous encourage, en tout cas, à demeurer fermement fondés sur le témoignage des Écritures. Dieu est fidèle. Même dans ce moment, il ne nous abandonnera pas. L'assurance du salut, c'est important parce que c'est une force. Il faut la conserver parce que c'est une force. Devant les épreuves, nous l'avons dit, mais aussi les renoncements auxquels Dieu nous appelle. Heureusement qu'il y a cette assurance. Heureusement qu'il y a cette espérance glorieuse. Parce que sinon, vous voyez, si nos yeux se détournaient de cette assurance, nous nous laisserions vite entraîner, attirer à nouveau vers les biens de ce monde. Vous voyez, c'est seulement le fait de posséder cette assurance qui nous permet de peser les choses, de les maintenir en perspective. Oui, le monde nous offre des choses, parfois pas forcément illégitimes, mais que sont les biens les plus grands et les plus précieux du monde ? Si on les compare à la gloire éternelle qui sera révélée pour nous, dit l'Écriture. Maintenant, frères et sœurs, maintenons-nous dans cette assurance que Dieu vous bénisse, qu'il la multiplie, qu'il la renouvelle en nous. pourrait se recueillir quelques instants et prier le Seigneur.